cœur à cœur avec toi, CKUT
90,3 FM,
CKUT, heart to heart with you.
Salut à tous et à toutes, bienvenue à Point de vue, Boris Chassagne avec vous pour la prochaine demi-heure. Au sommaire aujourd'hui, les résidents du quartier de Beechwood retrouvent leur très couru Beach Fest d'Ottawa.
Les gens ne sont pas toutes riches et quand même ils ne sont pas toutes pauvres. Et ici, il y a un mélange et c'est le mélange que j'aime.
Après avoir passé 2 ans à naviguer en eau trouble, le théâtre du Cercle de Molière retrouve ses planches et des artistes de tous horizons.
Étant donné que le théâtre est vraiment axé sur une vouloir des multiples voix, des voix qu'on entend pas souvent, des voix qui nous proviennent d'un peu partout. Ces gens-là, en ce moment, sont hyper occupés. Alors, il y a comme une effervescence des artistes de la diversité, là, en ce moment.
Dans les Maritimes, on pleure la disparition de Margaret Sillyboy Poulette, de la Première Nation Mi'kmaq de Wekoba au Cap-Breton. Elle a milité toute sa vie pour sensibiliser les non-autochtones aux réalités des Premières Nations.
On peut lire sur ça, et on peut peut-être en connaître, mais quand on connaît une personne, puis on peut écouter son expérience et son trajet, ça fait réaliser qu'on connaît peut-être pas, et on se doit aussi, comme citoyen et comme Canadien, Acadien, de connaître l'histoire de ce qui s'est passé dans notre passé pour nous assurer que ça ne se répète pas.
Et dans l'œil de notre périscope, on ajuste notre rétroviseur, oui, c'est moderne, et on prend des nouvelles de nos journalistes en Alberta, en Ontario, au Québec et au Nouveau-Brunswick. Bienvenue à Point de vue. On célébrait à Ottawa, après une pause de 2 ans, la fête annuelle du Beach Fest. Le Beach Fest, qui est en fait une immense fête des voisins. L'événement se déroule tout au long de l'avenue Beechwood, du quartier qui porte le même nom. Au programme, des musiciens, des spectacles, des artistes, de l'artisanat, de la nourriture. Tout était en place le 10 septembre dernier pour passer un beau moment entre voisins. Notre journaliste Marie Hillès était sur place et nous a ramené ce qui suit.
Des hamburgers, des boissons, de la musique, de l'art et de la bonne humeur. Le Beach Fest est l'une des fêtes annuelles importantes de la communauté. Du maïs frais, que moi-même j'adore, offert par Mathieu Fleury, conseiller municipal du quartier Rideau-Vanier.
C'est le fun. Comme vous voyez, la température aujourd'hui est idéale pour ce genre de festival. Ça rassemble vraiment la communauté. Hein. On a une belle communauté. L'avenue Beechwood nous rassemble, puis c'est beau de faire un festival. On voit beaucoup de familles, beaucoup de nouvelles familles qui sont arrivées dans le quartier aussi ces dernières années.
Qu'est-ce qui va vous manquer?
Ah, ben moi, j'aime les gens. Toute la proximité aux résidents. Essayer d'aider, essayer de faire avancer les dossiers. Comme vous le savez, on a des dossiers qui sont complexes, mais c'est toujours un plaisir de travailler avec les résidents. C'est ce qui va me manquer le plus. J'aime les gens, puis c'est une pause, mais je vais trouver d'autres façons de me garder impliqué. Justement, à ce genre de festival-là, je pourrais venir en famille.
Lynn habite dans le quartier depuis 3 ans. Elle porte une épingle sur son chapeau. J'aime Vanier. Avec son beau sourire, elle souligne la belle ambiance, mais aussi pourquoi l'avenue Beechwood est particulière.
Entre les deux communautés, Vanier avec le caractère et New Edinburgh qui est un peu différent. Les gens ne sont pas toutes riches et quand même ils ne sont pas toutes pauvres. Et ici, il y a un mélange et c'est le mélange que j'aime.
Nicolas est venu en famille. Selon lui, c'est une possibilité de faire la fête et d'être ensemble avant l'hiver.
C'est, je pense, la 3e, 4e fois qu'on vient. Pas pendant la COVID, mais il y a autant de monde que dans le passé avant la COVID. C'est le fun.
Vous habitez dans le quartier. Qu'est-ce que vous aimez dans ce quartier?
Oui, nous, on vit dans le quartier. Qu'est-ce qu'on préfère le plus? C'est l'aspect francophone et l'aspect communautaire avec nos voisins. Je suis franco-ontarien de naissance, puis pour moi, c'est important parce que je veux que mon enfant il grandisse en français le plus possible. Donc, quand tu veux ça en Ontario, tu choisis une communauté francophone, comme Vanier.
Joanne et son mari habitent depuis quelques années dans le quartier, mais c'est la première fois qu'ils participent à cette fête de rue.
Je pense que c'est juste le coming together of everybody, of all ages. It's nice. I think it's the overall feel of everything, the entertainment and
Que tout le monde soit ensemble, de tout âge. C'est sympa, les festivités, les boutiques sont ici, la banque alimentaire est là. Beaucoup de familles se retrouvent, c'est formidable.
Tu peux écrire avec toi. Tu te mets un petit... Tu peux prendre un petit...
Ouais, t'es pas obligé. Louis Mercier est un artisan qui vient de la ville de Maniwaki. Il chante, il danse, mais au Beach Fest, il prépare des bracelets très spéciaux.
Je travaille les corses de bouleau. On fait des petits cœurs, on fait des petits bracelets. Puis on fait des petits bracelets en cuir avec du cuir recyclé.
Et pourquoi vous aimez ce festival qui est ici aujourd'hui?
Ah, parce que je trouve que c'est familial, c'est beaucoup d'amour, beaucoup de plaisir, puis j'aime ça. Et les gens sont là pour que je peux mettre un petit peu de bonheur dans la vie des gens, c'est ça que je fais.
Suivez-nous sur Twitter, @CanadaLJI. Écoutez tous nos reportages sur canada-info.ca.
Et un autre événement reprend du service, cette fois à Winnipeg, au Manitoba. Après avoir passé près de 2 ans à naviguer en eau trouble, l'équipe du Théâtre Cercle de Molière lance sa programmation annuelle. Le Théâtre du Cercle de Molière s'est retroussé les manches et, avec l'aide d'une foule de collaborateurs provinciaux, canadiens et étrangers, a pu programmer sa saison 2022-2023. Le Théâtre Cercle de Molière, qui a profité de cette pause pandémique pour se redéfinir et offrir une place encore plus importante aux artistes issus de la diversité. Geneviève Pelletier, directrice artistique du Théâtre Cercle de Molière, nous parle de la programmation 2022-2023. Elle est au micro de notre journaliste Aurélie Forsen au Manitoba.
Ce qui est le fun, c'est que cette année, on a vraiment été plongé dans les collaborations qu'on avait élaborées pendant la pandémie. Et donc, ça a été vraiment quelque chose. Alors, on a mis en place quelque chose avec des artistes. Donc, c'est une série de collaborations, de coproductions, de coprésentations, de toutes sortes de choses qui fait en sorte que l'effervescence de la communauté artistique francophone du Manitoba est vraiment en éveil et est vraiment très, très présente. Donc, on démarre avec, au mois d'octobre, bien sûr, avec Stéphanie Morin-Robert, qui présente son spectacle Blind, qui est un spectacle qu'elle a mis en scène elle-même. C'est un solo qu'elle a voyagé le monde avec et ça va être une première mondiale en français de son spectacle. Alors ça promet d'être juste extraordinaire. Ensuite, on va avec 1, 2, 3. Donc on a, c'est un spectacle pan-canadien avec une multitude de différents partenaires. Et à l'intérieur de ce spectacle, il y a 40 comédiens et comédiennes qui jouent dans ce spectacle-là. C'est vraiment un très, très grand déploiement. C'est mené par Manny Solimaniou, qui est le nouveau directeur artistique du Théâtre français du Centre national des arts. Et à l'intérieur de ce spectacle-là, nous avons nos chers Éric Plamondon, Anne-Laure Coupe et Ghislain Kibaga, ainsi que Marie-Ève Fontaine, qui font partie de la distribution des 40 personnes qui vont voyager à travers le pays. Donc ça, c'est juste extraordinaire à ne pas manquer au mois de novembre. Au mois de janvier, on vient avec Le Soulier, qui est avec le Théâtre de la 16e de Vancouver. C'est une comédie loufoque, un peu noire, mais super drôle, physique, vraiment très, très bien, d'un auteur québécois qui s'appelle David Paquette, mais distribution entièrement de Vancouver. Et à la fin, on termine, bien sûr, la grande saison avec Empreinte, qui est un spectacle multi-compagnie qu'on va aller créer en Guinée, à Conakry en Guinée, au mois de novembre, et qu'on va faire venir ici retravailler donc avec des gens de la Guinée, des gens de la France et des gens du Manitoba. Donc ça promet d'être super intéressant aussi. Et c'est Daniel Péloquin-Hoffner qui est le comédien qui va partir d'ici, de chez nous, qui va rencontrer Aminata Touré, qui est une comédienne extraordinaire de Conakry, ainsi que Henri Thomas de la France. Et bien sûr, on a notre secteur jeunesse, donc le merveilleux spectacle de Marie-Ève Fontaine, qui est une artiste d'ici, qui va jouer avec Gérald Laroche, qui est un artiste métisse, musicien juste extraordinaire, ainsi que Nathalie Labossière. Ça, c'est avec Cet été qui chantait. Et on termine avec Gazagine, qui est un spectacle qui veut émuler une forêt extérieure, intérieure, avec artistes musiciens, une autre artiste autochtone et une artiste polonaise. Donc voilà, c'est un peu la saison de cette année. Multiple.
Ben voilà une programmation qui m'a l'air bien remplie.
Oui, très.
D'ailleurs, on peut voir dans notre communauté qu'il y a un grand retour, un grand boom culturel. Comme par exemple, si je cite Andréna Turenne, qui était la directrice de l'Union Métis Saint-Joseph, mais qui, une fois que la vague a commencé à s'estomper, est retournée à son emploi d'artiste. Donc j'imagine qu'il y a beaucoup d'artistes qui sont revenus sur la scène.
Étant donné que le théâtre est vraiment axé sur une vouloir des multiples voix, des voix qu'on n'entend pas souvent, des voix qui nous proviennent d'un peu partout, ces gens-là en ce moment sont hyper occupés. Alors il y a comme une effervescence des artistes de la diversité là en ce moment qui est juste extraordinaire, comme c'est quasi impossible. On a tenté d'avoir une troupe autochtone à venir au mois de janvier et c'était, mais d'une difficulté. Donc là, il faut qu'on remette ça en 2023. C'est juste pour dire qu'il y a vraiment une effervescence à cet égard par rapport aux artistes de la diversité. Et moi, je trouve ça juste, ça me réjouit, mais de façon monumentale. Parce que c'est exactement où nous, ça fait des années qu'on promulgue, qu'on veut aller. Donc ça, c'est vraiment super. Je suis très contente de ça. Donc oui, quelqu'un comme Andréna, ça a sens que quelqu'un comme Daniel Roy qui va travailler, quelqu'un comme Marie-Josée Dandonneau, quelqu'un comme même Ghislain Kibaga qui est sur la scène de l'humour et sur les planches en ce moment. C'est juste, moi ça, en tout cas, c'est le temps d'être artiste et c'est le temps d'être artiste. Si vous avez une voix, si vous avez quelque chose à dire qui est autre que le mainstream, je vous encourage énormément puis de venir nous voir parce que c'est ça qui peuple vraiment le théâtre et la scène artistique en ce moment.
C'était Geneviève Pelletier au micro d'Aurélie Nana-Forson au Manitoba. On dirige maintenant vers les Maritimes dans l'est du pays. On y fait une pause pour souligner le départ d'une grande dame, Margaret Sillyboy Poulette, issue de la Première Nation Mi'kmaq de Wekoba au Cap-Breton, est décédée le 10 septembre dernier à l'âge de 79 ans. Madame Poulette a longtemps milité pour sensibiliser les non-autochtones aux réalités des Premières Nations. Margaret Poulette est l'une de celles qui a fréquenté de force l'ancien pensionnat autochtone de Shubenacadie en Nouvelle-Écosse. Elle y est arrivée dès l'âge de 4 ans, ce pensionnat qui, comme d'autres pensionnats autochtones au pays, s'était donné pour triste mission d'assimiler les enfants autochtones, de détruire leur culture, leur identité et leur histoire, et souvent au détriment de leur santé physique. Margaret Poulette, qui a d'ailleurs témoigné de l'expérience qu'elle a vécue au pensionnat de Shubenacadie lors de la Commission de vérité et de réconciliation du Canada, et rapporté les conditions de vie pitoyables qui y régnaient. Lisette Bourgeois, directrice générale de la Société Saint-Pierre à Chéticamp, connaissait bien Mme Poulette. Elle fait son devoir de mémoire en compagnie de notre journaliste Daniel Aucoin.
Lisette, on a appris en fin de semaine le décès de Margaret Poulette de Wekoba au Cap-Breton, une communauté autochtone pas loin de Chéticamp. C'est quand, toi, la première fois que tu as rencontré cette dame-là, Margaret Poulette?
Je pense que ça fait depuis 2016. La Société Saint-Pierre participait avec les communautés Mi'kmaq et Gaelic dans la création d'un groupe appelé MAGIC, qui était tout simplement un rassemblement d'activités 3 ou 4 fois par an entre les Mi'kmaq, Acadiens et les Gaels pour mieux se connaître. Alors, c'était pas rien de formel, mais c'était des activités où on se déplaçait dans les communautés pour apprendre et mieux se connaître entre cultures. Et surtout à nos activités qu'on avait à Wekoba, Margaret Poulette était toujours une des participantes à nos activités. Alors, j'ai eu la chance de la rencontrer lors de nos petites activités.
Suite à ces rencontres-là, comment toi, tu décrirais le mieux cette femme-là, Margaret Poulette?
Super gentille, dans sa simplicité. Elle était très humble. Elle était une femme qui observait à nos activités. C'était pas elle qui prenait le plus de place, mais elle écoutait. Puis, une femme très, très intelligente. Puis si on avait la chance de s'asseoir avec elle puis jaser, elle avait beaucoup à nous raconter et nous faire apprendre.
On sait que Margaret Poulette, en tant que personne touchée directement par les séquelles des pensionnats indiens, des pensionnats autochtones. Elle a eu la chance de communiquer son récit et ses expériences à la Commission de vérité et de réconciliation du Canada. Est-ce que pendant vos rencontres, vos jasettes, est-ce qu'elle a jamais communiqué ces expériences-là avec les membres de votre comité?
Oui, je pense à une fois en particulier, quand elle nous parlait de les écoles résidentielles, puis à l'âge de 4 ans, en raison du décès de sa mère, son père ne pouvait pas prendre garde à elle et son frère et sa sœur, et ils ont été amenés à Shubenacadie, à une école. Puis, à part de son expérience, puis il y a même eu un projet avec des jeunes à l'école à Wekoba qui ont enregistré son récit. C'est un petit vidéo de 6 minutes qu'on peut trouver en ligne. Puis elle parle de son expérience qu'à l'âge de 4 ans, sa tâche était de le nettoyage. Puis elle manquait beaucoup sa poupée. Alors elle avait fait sa propre petite poupée avec des règles, ce qui est le bon mot pour ça, mais avec des petits morceaux, des petites cannes. Puis c'était sa petite poupée pour elle, pour la consoler dans son ennui pour sa famille.
C'est quoi le meilleur souvenir que tu gardes de Margaret Poulet?
Dans nos activités, comme que j'ai dit, c'était aussi les cultures acadiennes et gaéliques qu'on voulait mieux connaître. Fait que lors de notre fête de la mi-carême, quelques années passées, avant la pandémie, je pense, on avait invité les gens de venir fêter pour une activité spéciale ici au Trois-Pignons pendant la semaine de la mi-carême. Alors, les gens de Wekoba ont arrivé, masqués, costumés, ont frappé à notre porte et ils ont eu la chance de connaître un peu notre tradition de la mi-carême. Puis je pense qu'elle, dans son après-midi, elle avait beaucoup, beaucoup apprécié parce qu'il y a un lien avec les Acadiens aussi. Je ne sais pas exactement ce qu'est le lien direct, mais il y a un peu de parenté avec sa fille Rosie, Acadien, et du sang acadien. Alors, pour eux, de venir fêter la mi-carême, c'était plaisant pour eux, puis c'était une façon de mieux nous connaître. Puis il avait eu beaucoup de plaisir cet après-midi-là. J'en garde des bons souvenirs.
On ne connaît pas ou on n'en sait pas assez au sujet du peuple autochtone, même si c'est pas loin, c'est juste une heure de Chétiquan. Alors, on a beaucoup à apprendre au sujet des Autochtones, et je pense que cette dame-là, elle nous a permis d'en savoir un peu.
Absolument. Si on peut lire sur ça et on peut peut-être en connaître, mais quand on connaît une personne puis on peut écouter son expérience et son trajet, ça fait réaliser qu'on connaît peut-être pas, et on se doit aussi, comme citoyen et comme Canadien, Acadien, de connaître l'histoire de ce qui s'est passé dans notre passé pour nous assurer que ça ne se répète pas.
Alors, Lisette Bourgeois, directrice générale de la Société Saint-Pierre, merci beaucoup de nous avoir communiqué un peu au sujet de Margaret Poulet, femme autochtone, décédé à Wekoba, au Cap-Breton, en fin de semaine.
Mon plaisir.
Bonjour à tous, ici Pénélope Clermont à Tête à la baleine, en Basse-Côte-Nord. Vous écoutez Point de vue.
Vous savez que le pays est vaste et des fois on doit sortir notre périscope, voir ce qui se passe tout autour. Premier arrêt en Alberta où on nous apprend que le musicien franco-albertain Ronald Tremblay planche sur une anthologie de la culture franco-albertaine. Une équipe d'une douzaine de personnes lui prête main forte. L'anthologie devrait être d'ailleurs publiée en version web d'ici quelques mois. Notre journaliste Vincent Lavoie est en compagnie de Ronald Tremblay.
On est maintenant une douzaine de rédacteurs à travailler sur cet ouvrage-là, qui, dans le fond, raconte un peu l'histoire des arts et de la culture en Alberta. Cette fois-ci, c'est vraiment la culture et les arts du côté canadien-français, franco-albertain. Et là-dedans, il y a de tout, hein, c'est incroyable, parce qu'on a aussi, plus récemment, là, on a des artistes de la chanson, on a des auteurs qui sont ce qu'on appelle encore des nouveaux arrivants, mais vraiment, on va être vraiment surpris de l'inclusion qu'on a, c'est des francophones de l'Alberta, de tout azimut, comme on dit. Moi, je me suis aperçu au fil des ans, c'est sûr qu'il fallait développer certaines choses, mais on n'a pas à envier personne d'autre, que ce soit dans l'Ouest ou même au pays. On a beaucoup, beaucoup d'éléments ici, là, qui, pas rien que parce que des gens qu'on aime bien, mais des gens qui sont surprenants.
Le voilier Comaris revient d'une expédition bleue de 17 jours. L'équipage, composé de 16 personnes, a parcouru le golfe du Saint-Laurent et ses rivages dans le cadre d'une mission de recherche scientifique et de création artistique. Les Comaris a visité les côtes de Sept-Îles, des Îles-de-la-Madeleine, de l'île d'Anticosti, de Tête-à-la-Baleine et de Terre-Neuve. Les Comaris qui avaient pour mission d'étudier et de documenter la pollution plastique et de témoigner des changements climatiques. Pénélope Clermont a pu monter à bord de l'Écomaris lors de sa halte à Tête-à-la-Baleine. Elle en parle avec Anne-Marie Asselin.
Ça faisait 5 ans qu'on y travaillait avec l'Organisation Bleue sur un projet d'expédition pour le recensement du plastique. Il y a eu une pandémie, comme
oui,
vous savez.
Oui.
Ce qui a retardé un peu tous les projets. Puis finalement, c'est en décembre qu'on a déposé à temps navire avec le Réseau Québec Maritime, où on a proposé un format beaucoup plus simplifié, là, mais c'était pas simple du tout. C'est quand même 4 équipes de recherche là, qui sont en parallèle avec la navigation, donc logistique complètement éclatée, là, à planifier des itinéraires, gérer des assurances. On a de l'équipement audiovisuel pour produire 4 films là, à bord. Fait qu'on est capable de streamer en live. Genre hier, on a été sur Facebook pendant qu'on accostait à Wellington Harbor. Demain matin, on annonce tantôt qu'on va aussi être en live pour l'arrivée à Terre-Neuve. Fait que sur ces petits moments-là clés, on est capable de se connecter directement avec le public. Puis les gens voient toutes les manœuvres de bateau, par exemple. Si on va se promener en hike, mettons, on peut les amener avec nous directement. Mm-hmm. En plus de filmer tout ce qui se passe là, au courant de l'expédition pour la production d'un long métrage, puis de capsules complémentaires également.
Un projet minier inquiète la population de la ville minière québécoise de Fermont, si bien que la minière Mid-Atlantic Minerals, qui souhaite exploiter un gisement de quartz au lac Topper, devra s'expliquer publiquement le 22 septembre prochain. Le conseil municipal de la ville de Fermont indique que le site du projet proposé se trouve à l'intérieur de l'aire de protection et de l'unique source d'eau potable qui alimente le secteur, soit le bassin versant du lac Perchard. Élisabeth Séguin a rencontré le président de la minière, Steve Daigle.
Ce n'est pas des grosses opérations. Là. On parle de peut-être juste un loader, une pelle mécanique, un concasseur, puis un tamiseur pour extraire le quartz puis l'amener à mon usine à Québec. On est une petite compagnie. Fait que l'idée, c'est pas nécessairement d'avoir des grosses opérations là-bas avec des camions qui font des allers-retours puis beaucoup de tonnage ou quoi que ce soit, comme on est habitué de voir à Fermont. Là. C'est une plus petite opération. Je pense que l'idée, ce serait de s'asseoir ensemble, les citoyens et Mid-Atlantique, pour discuter de bon, ben, comment on peut faire pour cohabiter ensemble. C'est plus ça l'idée, je pense.
On commémorait le 15 septembre dernier à Barrie, en Ontario, la bataille de l'Angleterre. Plusieurs Canadiens ont, au cours de cette bataille, prêté main forte aux troupes anglaises du 17 juillet au 31 octobre 1940. C'est là, d'ailleurs, que l'aviation royale canadienne a reçu son baptême de feu. La bataille de l'Angleterre est commémorée chaque année ici au Canada, en souvenir du dur coup que la Grande-Bretagne et ses alliés ont infligé à la Luftwaffe allemande. Cette victoire aurait même fait reculer Adolf Hitler, qui couvait le projet d'envahir l'Angleterre. Marc Lalonde est en compagnie d'un retraité de l'aviation royale canadienne, Normand Marion.
Hitler, qui était frustré de s'être fait bombarder, que des villes allemandes avaient été bombardées, alors lui a décidé de tourner l'offensive allemande aérienne, les bombardements vers les villes plutôt que les positions stratégiques qui auraient dû continuer d'attaquer. Alors, on commémore la bataille d'Angleterre normalement, généralement, le dimanche qui tombe entre le 15 et le 20 septembre. Pourquoi ces dates-là? C'est parce que ça représente le 15 septembre 1940, le dimanche 15 septembre 1940, alors que ce jour-là, ça a été vraiment le tournant de la bataille d'Angleterre, alors que ce jour-là, l'aviation de chasse, le Fighter Command de l'aviation britannique et alliée ont frappé avec un tel acharnement la Luftwaffe, les forces de bombardiers allemands qui attaquaient la Grande-Bretagne, qu'ils ont perdu. Les Allemands ont perdu tellement d'avions et de personnel que Hitler a décidé il y en avait assez. Il a décidé d'abandonner son projet d'invasion de la Grande-Bretagne. et il s'est tourné plutôt vers l'URSS. Alors, ce dimanche-là, le dimanche de la bataille d'Angleterre, on honore la mémoire de ceux qui ont servi durant la bataille.
Et en terminant, on soulignait le 11 septembre dernier la 20e journée mondiale de la prévention du suicide. Et à Kedgwick, au Nouveau-Brunswick, plus de 100 personnes ont déposé 200 lanternes sur les lacs de la halte routière de Kedgwick pour souligner cette journée. Maxime Gauthier a ouvert son micro à une personne qui revient de loin et qui tenait à rester anonyme.
La raison que j'ai voulu participer à la journée de prévention du suicide, c'est parce que moi-même, j'ai fait des tentatives de suicide à plusieurs reprises. J'ai été suivie de proche, j'ai été hospitalisée 3 fois en psychiatrie. Puis ça fait déjà un bon 2 ans que je peux dire que ça va bien. Parce que là, je suis médicamentée, je suis suivie, je suis plus ouverte, puis j'ai beaucoup plus d'outils pour pouvoir me contrôler moi-même, pour plus penser, pour me changer d'idée. Puis j'apprends à aimer la vie chaque jour. Juste ça. C'est merveilleux. Puis c'est pour ça que je voulais participer, parce que je trouve ça important qu'on en parle. Parce que souvent, comment je dirais ça, c'est tabou. C'est un sujet qui est beaucoup tabou. Le monde ne veut pas en parler par peur d'être jugé. Mais au final, tout le monde y pense. Tout le monde passe par là à un moment donné dans sa vie. Fait que je trouve que c'est bon qu'on en parle pour savoir que t'as pas besoin d'être jugé puis d'avoir peur d'en parler quand ça va pas bien.
Bonjour, ici Judy Desalliers au Nouveau-Brunswick. Vous écoutez Point de vue. Suivez-nous sur Twitter à CanadaLJI, @CanadaLJI. Écoutez tous nos reportages sur canada-info.ca.
Voilà, c'est tout pour nous. On remercie nos journalistes Marie-Hélès, Daniel Aucoin, Elisabeth Séguin, Maxime Gauthier, Marc Lalonde, Pénélope Clermont, Aurélie Forsen et Vincent Lavoie. Merci à notre coordonnateur national Stéphane Bénard. L'émission Point de vue est une production du Fonds canadien de la radio communautaire à Ottawa. Ici, Boris Chassagne à l'animation et à la réalisation. Merci de nous avoir tenus compagnie. À la semaine prochaine.
Okay, are we ready? I'm Naomi Klein, author of The Shock Doctrine. You're listening to CKUT. Keep listening.
Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à Point de vue. Boris Chassaigne avec vous pour la prochaine demi-heure. Au sommaire, la reine Élisabeth a été accompagnée vers son dernier repos le 19 septembre dernier. Plusieurs Canadiens lui ont rendu hommage, y compris dans le petit village de Plamondon. Son musée lui concocte une expo de dernière minute.
Quelqu'un nous appelle puis il dit que la reine était décédée. Alors, vite, là, on a mis une exposition sur les choses qu'on avait de la reine.
Une franco-albertaine fait du bénévolat depuis qu'elle est adolescente. L'Association canadienne francophone de l'Alberta lui décerne le prix Guy Lacombe en reconnaissance de son dévouement.
De rassembler les gens autour de nous autres, ça fait partie de nous autres. C'est même pas une question. Rassembler les gens, c'est quelque chose qui est, je vais dire, naturel. Chez moi puis dans ma famille.
Le chanteur Damien Robitaille complète sa tournée solo de près de 60 spectacles dans son petit coin de pays ontarien. Il boucle la boucle.
Quand tu rentres à la maison, c'est plus haut, c'est plus personnel. D'habitude, c'est gagné d'avance, je veux dire. Il y a l'amour des gens de chez nous, là, c'est du rabat.
Et les prochains Jeux de la francophonie vont se tenir en République démocratique du Congo en 2023. Et on recrute, tous azimuts, des francophones de partout au pays.
On était 4000 jeunes, 18 à 35 ans, de partout à travers le monde, de partout à travers différentes francophonies. L'ambiance, le cadre, la réalité auquel on est exposé, les gens qu'on croise, les amitiés qui naissent. Les jeux, c'est le tremplin pour voir jusqu'où tu es capable de sauter.
Suivez-nous sur Twitter, @CanadaLJI. Écoutez tous nos reportages sur canada-info.ca.
Eh bien, tout le monde le sait, aujourd'hui, les funérailles de la reine Élisabeth II se sont tenues le 19 septembre dernier. Le monde entier avait une pensée pour elle et on a souligné sa mémoire, même dans les coins les plus inattendus. C'est le cas à Plamondon, en Alberta, où vivent quelques centaines de personnes, pour la plupart des franco-albertains. Eh bien, imaginez-vous que le musée de Plamondon a trouvé une foule d'artefacts assez pour monter une exposition temporaire commémorant la visite de la reine Élisabeth à Saint-Paul, pas loin, en 1978, dont une robe portée par une citoyenne de la région, Marie Marchand, de même qu'une flopée de journaux historiques. Les articles exposés appartenaient à la belle-mère de la présidente du musée de Plamondon, Bonita Labonté. Cette dernière a gardé tous les articles de journaux qui parlaient de la souveraine. Ils ont été retrouvés dans le sous-sol du musée. Bonita Marchand a gracieusement accepté de se confier brièvement au micro de notre journaliste Vincent Lavoie, le temps d'une brève entrevue.
Le musée de Plamondon a décidé de mettre en place une exposition de journaux d'époque pour souligner le règne de la reine Élisabeth II. Au cours de ses nombreuses visites au Canada, elle se sera rendue dans le nord-est albertain à Saint-Paul en 1978. Depuis, la belle-mère de Bonita Marchand, Marie Marchand, qui l'a rencontrée, a conservé tous les articles de journaux qui parlaient de la reine. Voici Bonita Marchand, présidente du musée de Plamondon.
On était au musée et on était en train de regarder les choses qu'on avait. Puis là, à un moment donné, quelqu'un nous appelle puis il dit que la reine était décédée. Alors, vite, là, on a mis une exposition sur les choses qu'on avait de la reine.
Les quelques visiteurs qui sont venus au musée étaient surpris de la quantité d'articles de journaux présentés. Plusieurs d'entre eux étaient des journaux encore intacts, dont certains étaient des éditions spéciales datant du couronnement. À l'époque, toutes les entreprises du tabac au matelas félicitaient le couronnement du nouveau monarque. Bonita Marchand, pour sa part, est aussi très surprise de la quantité d'articles qui ont pu être affichés.
Oh oui, on avait regardé à ça, mais on n'avait jamais vraiment parti sur toutes les choses qu'on avait. Alors, on regardait toutes les choses qu'on avait. Tu sais, on reçoit beaucoup de choses au musée. Comme maintenant, on a reçu beaucoup de choses sur la Deuxième Guerre mondiale. Alors, si vraiment on fait une exposition sur la Deuxième Guerre mondiale, nous avons beaucoup d'articles que, tu sais, on pensait pas d'avoir, mais c'est toujours plaisant de les avoir. Alors, on refuse presque rien au musée.
L'exposition sera en place jusqu'à la fin septembre. Le musée de Plamondon, bien qu'il soit officiellement fermé pour la saison, continue de tenir son magasin de souvenirs du mardi au samedi. Les visiteurs peuvent visiter le musée par la même occasion. Ici Vincent Lavoie, à Plamondon.
Bonjour à tous, ici Pénélope Clermont à Tête à la baleine, en Basse-Côte-Nord. Vous écoutez Point de vue.
L'Association canadienne francophone de l'Alberta a décerné le prix Guy Lacombe à Isabelle Caron, une résidente de la région de Rivière-la-Paix, en reconnaissance de son service à la communauté et de son engagement communautaire. Le bénévolat, c'est une seconde nature pour Mme Caron, elle qui en fait depuis son adolescence. Elle dit avoir toujours compris l'importance de s'engager et d'être au service de sa communauté dès son arrivée à Rivière-de-la-Paix. Elle s'est engagée au sein du Café Nord-Ouest, une association dédiée au bien-être des familles francophones. Elle en sera d'ailleurs plus tard la présidente. Elle a aussi œuvré auprès de la Société des Amis de l'École Héritage. Justine Dubrulle s'est entretenue avec Isabelle Caron.
Je pense que ça fait juste partie de moi. Dans mon village, là, il y avait un comité qui s'appelait Comité des loisirs. Puis ils ont fait une dérogation pour moi. Fait qu'à 14 ans, j'étais déjà dans le comité jusqu'à temps que je quitte mon village. Là. J'ai été 5 ans dans ce comité-là, là-bas, dans l'implication. Tu sais, des sports, là, je m'occupais, j'étais adolescente, puis je m'occupais comme de la bâtisse des loisirs, puis la patinoire l'hiver, puis on organisait des soirées, des activités. Puis dans ma famille aussi, là, c'est De rassembler les gens autour de nous autres, ça fait partie de nous autres. C'est même pas une question. Quand on m'a demandé de faire partie du Café Nord-Ouest au début, je savais même pas trop c'était quoi. Puis c'est comme, oui, j'embarque, là, c'est sûr. Organiser des affaires pour les gens, s'impliquer pour rehausser la communauté. Puis ouais, rassembler les gens, c'est quelque chose qui est, je vais dire, naturel. Chez moi puis dans ma famille. Là, c'est pas juste moi, là, c'est ma famille. Du côté de mon père, là, sont très comme ça. Ma fille, elle a le naturel aussi. Là, elle n'hésite pas. Là, la seconde qu'elle peut aider. J'ai perdu 10 livres un hiver à pelleter la patinoire quasiment tous les jours. Parce que j'avais décidé que c'était moi qui en prenais soin. Aussi, j'ai appris à jouer aux cartes avec les messieurs du village. Là, il lui manquait tout le temps un joueur de cartes, fait que c'est moi qui allais jouer aux cartes avec eux autres. Je pense que c'est l'affaire la plus valorisante qu'il y a. De donner de son temps. Puis des fois, des fois, c'est beaucoup de travail en arrière d'un événement. Mais quand l'événement a lieu, là, c'est tellement beau de dire, crime, j'ai participé à ça, c'est grâce en partie à moi que ça s'est passé. Puis juste ça, c'est tellement valorisant, là, c'est pour l'estime de soi. Puis tout, là, les gens sont tellement heureux aussi aux événements. Là. C'est tellement positif là, que juste pour ça, là, si le monde veut du positif dans leur vie, ben qu'ils s'impliquent. Puis le travail d'équipe aussi. Là, je veux dire, c'est oui, j'ai gagné un prix, mais je ne l'ai pas fait toute seule. Il n'y a pas juste moi en arrière de ce prix-là. Il y a énormément de personnes. Je n'aurais pas arrivé à ça toute seule. Puis quand tu t'impliques dans quelque chose, ben tu bâtis aussi des relations avec d'autres gens qui deviennent tes meilleurs amis souvent. Puis tu travailles avec des personnes que tu es bien de travailler avec eux autres, puis donc tu développes des relations avec eux autres, puis tu te fais des nouveaux amis. Tout ça, c'est que du positif. Je vois pas pourquoi que le monde ils disent non. Là, je comprends pas. Là, c'est très positif, s'impliquer. Tu redonnes au monde, puis ça fait tellement du bien de donner. Là, tellement plus que de recevoir.
Madame Caron recevra son prix en main propre le 14 octobre à Edmonton. L'auteur-compositeur-interprète franco-ontarien Damien Robitaille revient au Bercail pour terminer sa tournée de 60 spectacles en solo intitulée Déconfiné. Il se produit au parc Rotary Champlain-Wendat le dimanche 25 septembre, un spectacle qui coïncide d'ailleurs avec la journée du drapeau franco-ontarien. Il revient donc chez lui, Damien qui est natif de La Fontaine en Ontario et qui lançait il y a près de 20 ans, en 2003, son premier album éponyme indépendant. Au fil de sa carrière, Damien Robitaille s'est produit au Canada et en Europe. Il a remporté de nombreux prix à la disque au Québec, les Trilles d'or en Ontario et le célèbre prix Félix Leclerc que lui ont décerné les Francofolies de Montréal. Marc Lalonde a eu le plaisir de lui parler à quelques jours de sa venue dans l'extrait qui suit.
Bonjour Damien Robitaille, comment ça va?
Ça va bien, et toi Marc?
Ça va très bien. Écoute, je regarde ça. L'an prochain, c'est le 20e anniversaire du premier album de Damien Robitaille. Donc, est-ce qu'on prévoit quelque chose de spécial?
Pour ce disque-là, oh, ben, je sais pas. Pour 20 ans, peut-être on va dire à 25 ans. Moi, ouais, non, c'est ça. Non, c'est, mais déjà 20 ans, ça me rajeunit pas. Hey, mon, ouais, ce disque-là, ça, c'était le premier avec La Fontaine, puis ouais. Les premières versions de Je tombe, et l'astronaute et tout ça. Alors, non, ça, c'était quand même un moment important de ma vie. Là, c'est le, ça m'a ouvert des portes pour commencer une carrière en chanson, ça, ouais.
Est-ce que le parcours a été long et ardu ou rapide et surprenant?
Le parcours, il est long. C'est toujours ardu. Là. Moi, c'est pas été. Ça n'a jamais monté en flèche, moi. C'est toujours c'est une montée graduelle depuis 20 ans, on va dire. Et puis là, c'est pas, le trajet n'est pas encore fini. Là. Moi, je peux... il y a encore de la place à grandir. Puis d'autres avenues à explorer, d'autres. Il y a plein de monde qui me connaissent pas encore. Là, on n'arrête jamais de travailler.
Puis la preuve, c'est que pendant la pandémie, où on était obligé à prendre une pause, ben toi, t'as voulu rendre ça positif en offrant des reprises de chansons populaires sur Facebook, que ça a très bien marché. Juste comme ça, est-ce que tu sais combien à peu près t'en as fait?
Ben des vidéos, je suis pas loin de 300, là. Donc, ça fait quelques mois, j'en ai pas fait de j'en ai fait quelques nouvelles cet été, c'est vrai, ça. Je vais peut-être recommencer bientôt, là. J'ai eu un peu de temps off, là, mais là, présentement, avec la tournée, c'est assez exigeant, puis beaucoup de dates, alors là, c'est...
Est-ce que cet effort-là, cette activité-là, t'a peut-être donné des suggestions, des trucs, des idées pour composer des nouvelles chansons de Damien Robitaille?
Sûrement. Sûrement, dire, là, j'ai pas mis beaucoup de temps dans la création, je veux dire, dans la composition depuis 2 ans et demi. Je sentais pas le besoin parce que j'étais la créativité, je la vivais à travers les interprétations, les nouveaux arrangements et tout. Mais c'est sûr que tout ça, tout ce que j'ai fait, là, ça va venir... quand viendra le temps pour composer des nouvelles chansons, là, c'est sûr que ça va y avoir de l'influence là-dedans. J'ai rendu homme orchestre, alors là, il y a des nouveaux rythmes que j'ai appris. On sait, j'avais peut-être des influences de la musique danse des années 90. Là, c'est souvent le plus gros hit pendant la pandémie.
Tu sembles à l'aise sur la scène montréalaise et québécoise. Là, ça va de mieux en mieux. Le monde te reconnaît. Revenir jouer à la maison pour un 25 septembre, est-ce que c'est une journée au bureau ou il y a un peu de stress parce qu'on est chez soi et on ne veut pas décevoir?
Oh, il y a toujours un petit stress. Tu sais, on veut que les gens soient fiers. Ce qui est différent, c'est que c'est plein de monde qui me connaissent depuis que je suis jeune. Alors, ils ont connu le Damien comme original. T'sais, quand je fais des tournées ici au Québec, les gens, ils connaissent un Damien qui voit sur un écran, qui entend à la radio. Mais quand tu rentres à la maison, c'est plus personnel. Là. Est-ce que les gens vont me reconnaître là-dedans? Qu'est-ce qu'ils vont penser? Mais d'habitude, c'est gagné d'avance, je veux dire. Il y a l'amour des gens de chez nous, là, c'est du rabat.
Bon, tu parlais de tambour au pied et tout ça. Donc, cette tournée solo-là, j'imagine que tu vas incorporer des éléments que tu as fait dans tes vidéoclips.
C'est clair, là, moi. Mais il y a quelque chose de spécial le 25 parce que ça va être la dernière de cette tournée solo.
Okay.
Ça va un petit bout, là, ça c'est sûr, parce que là, je commence en novembre, je recommence la tournée de Noël. Puis en 2023, j'ai pas de date encore de booker. Je prends un peu de temps off, là, mais puis ce printemps, là, j'ai fait une soixantaine de spectacles un peu partout au Québec. Mm-hmm. Alors je pense que la première fois que je vais présenter ce show-là en Ontario, et ça va être la dernière, alors là... Je sais que c'est la journée des Franco du drapeau franco-ontarien. Alors moi, je vais faire un bon set de mes chansons, mais je peux pas m'empêcher de T'sais, je peux pas aller quelque part puis pas. Je peux pas aller chez nous puis montrer ce que je fais depuis 3 ans. Là. Alors, là, il va falloir que je fasse quelques-uns des grands hits ouais. de la pandémie.
Que cette tournée-là offrira quelques nouvelles chansons, pas encore, non?
Quelques nouvelles, ben, tu sais, pendant la pandémie, j'en ai composé juste 3. Ben, je vais faire peut-être 2 de ces 3-là.
Okay.
Il y a la tournée Il me semble, il y a la tournée Bienvenue à Longueuil, qui est sortie, là, c'est comme.
Ouais.
Tu sais, il y a 20 ans, je chantais de la ville où j'habitais, c'était La Fontaine, mais là, à cette heure, je chante la ville où j'habite, c'est Longueuil, ça, là. J'ai une tune pour ça.
Ben écoute, Damien, on est tout le temps fiers de te voir, d'avoir de tes nouvelles, de te voir à la télévision. Voir sur le Facebook, les médias sociaux. On a hâte de te voir en chair et en os, donc le 25 septembre ici, au parc Wendat, puis en espérant qu'il va faire beau. Sinon, oui. Ce sera à l'intérieur, puis ce sera malheureusement déjà ça le comble. Mais à l'extérieur, ça devrait aller. Si Galarneau, le soleil se présente, ça devrait bien aller. On a bien hâte de
voir. C'est rare qu'on entasse ça. Malheureusement, ça va être sale comble. Oui. Mais espérons que c'est dehors, comme ça, il y a plus de monde possible peut venir.
Oui, exactement. Et puis, ce sera une belle célébration du 25 septembre avec grand plaisir. Donc, merci bien de cet entretien-là. On a hâte de te voir.
Marie-Victorin, rue Saint-Charles, boulevard Roland-Terrien, vieux Longueuil, Greenfield Park, Saint-Hubert. Pour eux, je lève les mains dans les airs. Venez danser, sortez de vos fauteuils. Faites un tour à Longueuil.
Bonjour, ici Daniel Point à Chatican en Nouvelle-Écosse. Vous écoutez Point de vue. Suivez-nous sur Twitter @CanadaLJI, @CanadaLJI. Écoutez tous nos reportages sur canada-info.ca.
On est à préparer les prochains Jeux de la francophonie qui vont se tenir en 2023 à Kinshasa, en République démocratique du Congo. On recrute déjà les prochains candidats à ces Jeux, d'ailleurs, et on espère que les jeunes Acadiens y seront nombreux. Ces Jeux ont lieu tous les 4 ans et permettent à des jeunes Canadiens francophones d'aller à la rencontre de leur vis-à-vis du monde entier dans une compétition culturelle et sportive. Ces Jeux servent souvent de tremplin aux carrières internationales de ces jeunes de 18 à 35 ans. Ils leur permettent par ailleurs de tisser des liens souvent durables avec des francophones de plus de 80 pays. Gabriel Robichaud, auteur canadien, a participé à la dernière édition des Jeux de la francophonie en 2017, ceux-là en Côte d'Ivoire. Il estime que sa participation a eu un impact très important sur sa carrière. Il est en compagnie de Daniel Aucoin à Chétiquan, Nouvelle-Écosse.
Gabriel Robichaud, bonjour.
Bonjour.
Tu as eu la chance de participer aux Jeux de la francophonie 2017. Comment importante qu'a été justement ta participation à un événement comme les Jeux de la francophonie?
Ben, je dirais que la participation aux Jeux a vraiment été marquante dans mon parcours de constater tout ce que ça implique, l'Organisation internationale de la francophonie, un événement comme les Jeux. On était 3600 jeunes de 18 à 35 ans de partout à travers le monde, de partout à travers différentes francophonies, de différents pays qui étaient là pour compétitionner, mais se rassembler surtout autour de cette langue-là qu'on avait en commun. J'ai rencontré des gens avec qui j'ai noué des amitiés, avec qui j'en ai gardé. L'événement le plus proche des Jeux olympiques que j'aurais jamais vécu. C'est-à-dire la cérémonie d'ouverture, on était devant un stade, il y avait 20 000 personnes. C'est quand même assez exceptionnel. Puis de se déplacer aussi dans un événement comme ça sur le continent africain, à Abidjan, Côte d'Ivoire la dernière fois, à Kinshasa l'été prochain, ça aussi, c'est une expérience assez unique, confrontante pour le meilleur, j'ai envie de dire. Ça a changé beaucoup de mes perspectives, mettons, comme artiste, comme citoyen aussi.
J'imagine que les Jeux de la francophonie favorisent le développement des échanges artistiques entre les pays francophones?
Oui, c'est certain, par la force des choses. Moi, suite aux Jeux de la francophonie, j'ai été invité par le candidat français qui habitait à New York. J'ai été invité 2 fois à un festival là-bas qui s'appelait le Festival des 5 continents.
J'ai revu aussi des différents candidats parce que le Canada a trois États au sein de l'OIF qui sont représentés. Donc, j'ai revu certains candidats en littérature par rapport à ça. J'ai eu la chance d'aller en France l'été, l'automne dernier. J'ai pu revoir le candidat du Mali là-bas. On s'est gardé un groupe sur Facebook, les candidats de 2017. Puis, tous les temps en temps, on s'écrit. Puis même... pour l'anecdote, mais l'année dernière, le lauréat du prix Goncourt, Mohamed Mbougar Sarr, ben, c'était un participant au jeu de la francophonie en 2017. Fait que je me souviens de quand j'ai vu les finalistes pour ce prix-là international de littérature, ben, je me dis, ben voyons, c'est donc bien drôle, ça sonne comme le candidat sénégalais des Jeux de la francophonie, parce que ça se peut pas que ce soit lui, puis oui, c'était lui, puis tu sais, je veux dire, c'est tous des êtres humains formidables, généreux, comme vous, comme moi, puis s'il y a une chose que ça m'a permis aussi, au-delà de cette collaboration-là internationale qui est favorisée, c'est en fait c'est de se rendre compte à quel point, comme Acadiens, on avait notre place d'égal à égal avec ces gens-là. Là-bas, on a été super bien accueillis, super bien reçus, puis les gens sont curieux, puis ce désir d'échange-là est là. Puis moi, je me souviens qu'à un moment donné, je me questionnais à quel point on avait cette place-là d'égal à égal, puis s'il y a une chose que ces jeux-là m'ont permis de me convaincre, c'est que cette place-là, elle était là.
On peut dire que ta participation au jeu de la francophonie, ça a été un peu un point tournant de ta carrière comme artiste acadien?
Oui, je pense que oui. Tu sais, je suis parti des Jeux avec une médaille d'argent. La délégation culturelle du Nouveau-Brunswick cette année-là avait trois artistes acadiens qui ont été médaillés aussi. C'était la plus importante récolte de médailles en culture que la province avait jamais eue. Les réalités auxquelles ça m'a exposé aussi, c'est toutes des choses que j'ai ramenées. J'ai envie déjà tous ceux-là qui vont se présenter, qui seront retenus puis qui se rendront au jeu de 2023 à Kinshasa. Depuis que j'ai foulé le continent africain, j'ai envie d'y retourner. Kinshasa particulièrement, c'est une ville qui a une culture, une littérature vraiment riche. C'est quelque chose que, comme je dis, que je souhaite à n'importe qui que ça intéresse. L'ambiance, le cadre, les réalité auxquelles on est exposé, les gens qu'on croise, les amitiés qui naissent. Les jeux, c'est le tremplin pour voir jusqu'où tu es capable de sauter. Puis, tu vois, au dernier jeu, ben en littérature, on avait eu une médaille. On avait eu une médaille aussi. En sculpture, on avait eu une médaille aussi. En photographie, je me souviens d'avoir assisté à la compétition de musique. Puis l'accueil que le candidat acadien avait reçu était phénoménal. Cette place-là... de l'Acadie sur la scène internationale, qu'on s'imagine pas toujours avoir, ben on l'a. C'est à nous de l'apprendre. C'est à vous, en fait, les jeunes qui pourriez appliquer pour les Jeux, de l'apprendre. Puis chaque seconde investie dans la mise en candidature de votre dossier, si vous êtes sélectionné, ça va être vrai que vous êtes rendu amplement.
Alors, Gabriel Robichaud, auteur acadien, merci d'avoir partagé avec nous comme ça ton expérience au Jeux de la francophonie en 2017.
Merci beaucoup.
Vous avez envie de vous y rendre? Eh bien, vous avez jusqu'au 30 septembre, le 30 septembre, pour soumettre votre dossier au prochain Jeux de la francophonie. La liste des candidats et candidates sélectionnés sera publiée sur le site des Jeux, jeux.francophonie.org, jeux.francophonie.org, le 16 décembre 2022. On fait maintenant quelques clins d'œil à l'actualité locale au pays et nous allons transiter rapidement par Ottawa où on nous apprend qu'un nouveau centre d'artistes autogéré a vu le jour, cette fois dédié aux arts numériques. Il s'agit du Centre des ressources en arts digital, DARC, qui lance officiellement le Soundstage, un studio dédié à la réalisation de films indépendants et à la formation des futurs cinéastes. Yasmina Dagri a rencontré Annette Hegel, directrice exécutive du Centre des ressources en arts digital.
Notre mandat, c'est vraiment de supporter les artistes digitaux, peu importe où ils sont dans leur carrière. Notre centre qui est unique parce qu'il est seulement réservé à l'usage de films indépendants. Donc, le seul usage permis, c'est pour des projets indépendants. Mais un autre côté de la raison pourquoi on l'a ouvert, c'est parce qu'à Ottawa, il y a une petite scène de films. Oui, donc vraiment, on est ici pour vous aider. S'il y a quelque chose que vous savez pas faire, on veut vous aider. Avec le centre de ressources, on peut vraiment tout faire. Fait que vous ayez zéro expérience, vous allez pouvoir apprendre avec nous, utiliser notre équipement, utiliser nos facilités, puis de A à Z, avoir des produits finis dans les ordres digital. Donc, n'importe où vous êtes, n'importe où vous êtes dans votre carrière, on veut vous aider. Venez nous voir, envoyez-nous un message, on est là.
La chasse, c'est un rituel de vie bien ancré dans le mode de vie de plusieurs Canadiens aujourd'hui. Et le ministère des Ressources naturelles du gouvernement du Nouveau-Brunswick a dû freiner les ardeurs de plusieurs de ses concitoyens en octroyant seulement 5107 permis de chasse, à l'orignal, aux 50 000 candidats qui en voulaient un. Ces permis ont été attribués via un tirage au sort, question de donner une chance à tout le monde. Heureusement, chaque détenteur de permis pouvait être accompagné d'une autre personne. La chasse ne durait que quelques jours, en fait 5 jours. Les premiers coups de feu ont retenti le mardi 20 septembre, dès le lever du soleil. Notre journaliste Sébastien Caron, posté au Nouveau-Brunswick, a rencontré deux de ces chasseurs, Martin Perron et son fils, alors qu'ils se préparaient à partir à la chasse, sans même savoir s'ils obtiendraient leur permis.
Nous autres, on met du sel, on met du soufre, on fait toutes les choses, tu coupes les petites branches, tu mets les briques de sel à la hauteur pour que l'orignal arrive et qu'il liche dessus. Pour ça, tu peux mettre du gros sel blanc par terre pour qu'il mange. C'est bon pour le panache, puis tout ça, ça développe le panache, les cornes puis les bois qu'ils ont sur la tête. Puis c'est quand tu mets beaucoup de produits, des fois, qu'ils viennent, oh, ils aiment ça, ils aiment le sel, ils aiment le soufre, ils aiment la senteur, bien, ils viennent tout le temps là. Fait que tu n'attires toujours au même endroit. Fait que t'as plus de chances de récolte, puis tu cours pas partout, tu sais où tu vas le temps de la chasse. On a des caméras, on a comme 5-6 caméras par spot. Puis après ça, moi, mon père est toujours par là-bas, dans mon endroit, puis mon père est bûcheron, fait que lui, il va toujours dans le bois. Fait que c'est lui qui s'occupe tout le temps, il va mettre aussitôt qu'il n'y a plus de sel, il en met d'autres, aussitôt qu'il n'y a plus de soufre. Lui, peut-être, ben, aller là, je dirais, une fois par mois, une fois ou deux par mois, là. Puis quand il manque quelque chose, il en rajoute. Fait que là, ben, les orignales sont habitués de tout le temps se tiennent au même endroit. Puis souvent, ils viennent quasiment tout le temps aux mêmes heures aussi. Fait que tu as une idée quel temps qu'il vient, s'il vient le jour, quand il vient la nuit, c'est pas le fun parce que tu peux pas changer sa routine. T'aimes quand tu les poses de jour parce que tu sais que la routine va continuer, mais c'est quoi ce qui arrive aussi, ça change beaucoup la routine. Quand est-ce que, ils viennent en chaleur, on appelle ça le rut. Quand ils viennent là, ils suivent plus eux autres, là, ils veulent décoller puis ils cherchent pour les femelles, ils viennent plus au même temps là.
Ben, Sébastien Caron leur a passé un coup de fil et puis ils ne sont pas revenus bredouilles. Succès de chasse, la stratégie fonctionne. Voilà, c'est tout pour nous. On remercie nos journalistes Justine Dubrulle, Vincent Lavoie, Sébastien Caron, Marc Lalonde, Daniel Aucoin et Yasmina Dagri. Notre coordonnateur national, Stéphane Bénard, Point de vue, est une production du Fonds canadien de la radio communautaire à Ottawa. Ici, Boris Chassagne à l'animation et à la réalisation. Merci de nous avoir tenu compagnie. À la semaine prochaine.
Canada LJI. Écoutez tous nos reportages sur canada-info.ca.
What's up? This is Kid Koala. You're listening to CKUT in Montreal, 90.3 FM.
I'll meet you.